très beau temps pour écouter M. Rex, originaire de Brive, qui va donc nous parler de ce qu'il a étudié au cours de sa retraite et au cours de 4 longues années, c'est-à-dire les 5 derrière Brivis, des personnages donc, qui ont fait partie de l'histoire, je peux dire, nationale. Voilà.
Merci Madame la Présidente. Oui, donc je voulais vous remercier, bon, bien sûr, Madame la Présidente, de m'avoir invité à venir donner cet exposé à Brive. Nous sommes, alors je suis venu avec mon épouse et mon frère aîné, car nous sommes, mon frère et moi-même, issus d'une vieille famille de brivistes, donc nous appelons les Rex, la famille X. Nos grands-parents étaient. Ceux qui les ont connus au 24 rue de la République, au
25.
Au 25. Avec une entreprise de chauffage central, c'est-à-dire le fumisterie à Nicole, l'entreprise Rex. Ça, du côté de notre père et du côté de notre mère. Nous habitions donc, nos grands-parents habitaient boulevard Édouard Lachaud, dans la maison qui a été reprise après par le docteur Lévin. Et donc, juste à l'angle de l'ex-ligne du Grand Parc et de la rue de la Gare. Voilà. Alors, nous avons fait des petites recherches généalogiques et la famille Rex remonte à Brive depuis avant la Révolution française. C'est pour ça que ça m'a donné un peu l'idée d'aller voir, un peu d'aller étudier du côté de la Révolution française. Voilà. J'ai toujours eu personnellement comme passion l'histoire, mais je ne suis pas un historien. Je fais ma carrière dans l'informatique. J'ai donc. J'ai fait des études d'informatique, j'ai été jusqu'à créer des entreprises d'informatique. Et nous habitons, je dis nous habitons parce que mon frère et moi-même et mon épouse, donc il aura de prendre en photo, bonjour. Nous habitons maintenant à Bordeaux. Nous habitons à Bordeaux. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous revenons à Brive. Alors, mon idée de départ, mon projet de retraite, si on peut dire, j'avais un double projet de retraite, c'était un. Faire deux choses que j'ai pas eu le temps de faire quand j'étais étudiant. Un, d'apprendre la langue grecque ancienne, donc je suis inscrit à Bordeaux, j'ai eu du temps libre, j'apprends le grec ancien. Et mon deuxième projet était de faire un bouquin consacré au maréchal Brune. Pourquoi le maréchal Brune? Parce que le maréchal Brune, quand j'étais un petit garçon et que je jouais place de la guerre, là, il y avait, la statue, et puis il y avait au kiosque, là, il y avait un marchand qui louait des tricycles. Moi, j'ai passé tout mon enfant donc, à jouer pour ceci autour de la petite image de Brune. Donc, voilà, quand je me suis dit, bon, mais c'est l'heure de se mettre dans les recherches historiques, je me suis dit, je vais m'occuper de Brune. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Brune. En lisant le bouquin que vous connaissez tous, qui s'appelle La Tauge et l'épée, qui est un bouquin qui est assez remarquable, qui a été fait par l'Institut du temps libre de Brive dans les années 90, qui maintenant est épuisé et qui donne beaucoup de renseignements sur le marché. Je commençais cette étude. Quand je venais parler avec mon cousin Germain Sauvois, qui habite aussi à Bordeaux, Sauvois, c'est une famille Sauvois qui est le prénom de la jeune fille de ma maman. Donc, son père à lui, donc mon oncle, était lui à créer le crédit à l'école de Brive. Ils étaient en bas dans une major à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et lui, donc, ce cousin, m'a dit, mais tu t'intéresses à Brune, mais tu devrais aussi t'intéresser à Treillard, parce que personne ne parle jamais de Treillard, et Treillard est peut-être plus important que Brune dans la région française. Treillard, je ne connaissais rien, donc je me suis dit, bon, mais je vais m'occuper aussi de Treillard. Et puis mon frère aîné ici présent m'a dit, oui, mais Treillard, c'est bien gentil, mais si tu fais Brune et Treillard, moi j'ai été étudiant à Cabanis, donc Cabanis, très important dans la révolution aussi, il faut faire Cabanis. Donc voilà, parti. Aussi avec Cabanis, heureusement, on faisait 3. Là, j'étais tranquille. Et puis, je me suis dit, bon, mais parti pour parti, je vais regarder. Alors, je suis tombé sur La Treille. Comment je suis tombé sur La Treille, qui n'a pas eu, vraiment, mais je vous ai parlé, qui est plutôt une anecdote, hein, avec la française, qui est anecdotique. Mais là, j'ai découvert La Treille en lisant un bouquin de Pierre Bergouillou, qui s'appelle L'amour de Brune, que vous connaissez peut-être, où il parle de la fameuse histoire de la nécrobie à col roux qui a sauvé la Treille de la déportation en Guyane. Je vais y revenir pour ceux qui voudraient des détails sur la déportation en Guyane, évitée grâce à la nécrobie par la Treille. Et puis, au cours de cette recherche de 4 personnages, et j'ai trouvé un personnage dont on ne parle jamais, je n'avais jamais entendu parler à Brive, ni nulle part, qui est l'abbé d'Espagnac. L'abbé d'Espagnac, c'est un peu le bouddhisme caché, parce que disons que son rôle pendant la Révolution n'a pas été, il est discuté, on va dire plus, il est très discuté même, puisque disons, parmi les révolutionnaires, il s'intéressait plus aux affaires de la Révolution, aux affaires dans le mauvais sens du terme, qu'à la beauté de la Révolution, voilà. Bon, ceci dit, les historiens discutent entre ces culpabilités ou pas, je reviendrai, ce qui me permet de parler d'Espagne à sa place dans l'histoire de France, parce qu'il a été jugé avec Danton et Desmoulins, dans le procès de Danton et Desmoulins du 2 avril 1794, si je ne me trompe pas. Voilà pour les origines de mes recherches. Alors, pour revenir à ces cinq-là, donc, je m'en suis arrêté à cinq. Après, quelqu'un m'a dit il y en a un sixième, j'ai dit j'arrête, j'en peux plus. Maintenant, comme j'habite à Bordeaux, maintenant, quand je présente mon œuvre donc, à des Bordelais, ils me disent, oui, c'est bien gentil, mais tu ne prends jamais des Girondins. Voilà. Ce qui est important, ce que je trouve extraordinaire chez ces cinq personnages, c'est qu'il y a donc il y a trois majeurs, hein, c'est Brunet, Treillard et Cavalli, c'est deux plus anecdotiques, mais que il représente quand même un grand militaire, donc ça c'est Brune, bien sûr, on va y revenir, un grand politique, c'est Treillard, donc bon, on ne pense jamais assez, un médecin philosophe, ça c'est Cabanis, un savant, c'est la Treille, et un homme d'affaires, c'est d'Espagnac. C'est-à-dire que nous avons non seulement cinq brivistes qui ont contribué, surtout trois, abondamment à la Révolution française, mais qui en plus représentent des branches différentes de leur action, au service du pays, en fait. Et donc, comme je fais des cours de grec, ça me figure aussi qu'il représente à eux seuls un peu le modèle que Platon donnait pour la République idéale. Vous savez que Platon dit qu'on a la République soit idéale, puisqu'il y a des sages philosophes qui dirigent, des guerriers qui la protègent, et des producteurs qui assurent le quotidien. Voilà. Donc là, nous avons ce... Alors, avant d'entrer dans le détail de chacun et de la Révolution, qu'est-ce qu'on peut dire? Que je n'ai trouvé aucune trace de leur rencontre à Paris. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques dans la famille. Oui, tu devrais être un roman historique, ou tu imaginerais qu'ils se rencontrent dans des rues, des soldats, ou des cafés à Paris. Moi, je l'ai trouvé, je voulais faire une œuvre sérieuse, donc où tout est vérifiable, et discutable, mais vérifiable, et je ne voulais pas faire un roman historique. Et je n'ai trouvé aucune, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, aucune trace dans aucun. Aucune source que j'ai pu consulter ou aucun livre que j'ai pu lire d'une rencontre, quelconque rencontre, d'un de ces cinq personnages avec les quatre autres, ou à deux, ou à trois, ou à quatre. Je n'ai rien trouvé. Donc je n'en parle pas dans mon rôle. Donc voilà. Donc je n'ai trouvé aucune trace de leur rencontre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'ils sont tous nés à Brive, centre, sauf un, Cabanis, qui est né dans la lointaine banlieue. Il est né à Connac, loin. Les deux sont de Brive, sans donc Treillard, j'ai eu sa plaque, là, sa maison est là. La plaque de Brune aussi, là, on a joué, je crois. La Treille, alors la Treille, j'en parlerai aussi. Là, parce que j'ai vu qu'il y avait une plaque là sur la maison en face de la. Oui, cela, mais il n'est pas né là. Il n'est pas né là, est-ce qu'il habitait aussi? Voilà, donc aucune trace de leur rencontre. Autre point commun, ils sont tous nés à Brive, j'ai dit, excusez-moi, mais aucun n'est enterré à Brive. Aucun. Donc il y en a deux qui sont au Panthéon, hein, vous le savez, au grand Panthéon là, à Paris, c'est pas mal, ça. Donc ça c'est Treillard et Cabanis. Vous savez qu'au Panthéon, il n'y a aucun militaire. Donc vous n'aurez pas de toute façon pu prétendre à rentrer au Panthéon, puisque le Panthéon, c'est pour les. Je veux dire, pour les laïcs, c'est pour les civils. Il y en a un qui est au Père Lachaise, c'est La Treille, qui a une très belle tombe au Père Lachaise. Il y en a un qui est enterré avec son épouse à Saint-Just dans la Marne, ça c'est Brune. Et puis un, celui qui a eu le sort le plus tragique, puisqu'il était guillotiné, donc sur la même charrette que Danton des Moulins, j'en ai parlé, c'est d'Espagnac. Lui, donc, il est quelque part dans un charnier à Paris. Voilà, autre point commun, ils sont tous de bonne famille, tous absolument tous de bonne famille, sauf La Treille qui est un enfant naturel des Espagnac, j'y reviendrai. Et ils sont tous anciens collèges des doctrinaires, du collège doctrinaire qui était ici. Alors, la question que je me suis bêtement posée, qui est le cœur en fait de mes recherches initiales, c'était pourquoi Brive, pourquoi trois personnages aussi importants originaires de Brive. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que ils ont tous été au collège des doctrinaires. Donc, bien, ce qui n'est pas difficile quand c'est fils de bourgeois. Bourgeoisie, on a le collège des doctrinaires, il y a un seul collège à l'époque, à Brive à l'époque. Mais ce que j'ai trouvé, ce qui est très intéressant, c'est que les doctrinaires de l'époque n'étaient pas. Au début, j'ai fait ce truc pendant un mois ou deux, parce que les doctrinaires, pour moi, c'est évoqué immédiatement des curés, je veux dire, très. Dans la doctrine, c'est-à-dire très. Alors qu'en fait, c'était absolument l'inverse à l'époque. Les doctrinaires étaient parmi les curés les plus, j'allais dire, les plus évolués, les plus éclairés de l'époque. C'était des prêtres qui étaient très inspirés des idées de Descartes et des Lumières, en fait. Et des Lumières, voilà. Donc, alors, mais pourquoi quand même? Alors, c'est là où j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, dont je vais vous parler maintenant, et c'est pour ça que ce personnage est ici, et ce n'est pas un briviste. Vous l'avez tous reconnu, c'est... Vous voyez là?
Oui.
Alors, qui c'est ce monsieur? Je ne savais pas avant non plus. C'est Turgot. Alors pourquoi Turgot? Pourquoi Turgot? Parce que Turgot, c'était donc un homme très éclairé, un homme politique français très éclairé, hein, qui est né à Paris en 1727 et qui est mort après 1881. Et qui a été un grand ministre de la France. Un grand ministre, un grand premier ministre de la France, qui était très éclairé. Pour ceux qui connaissent le politique, c'est un physiocrate d'origine. C'était, disons, un libéral, un keynésien, si on peut dire. Un libéral maîtrisé par les grands travaux. Alors, un de ses premiers postes, sous l'Ancien Régime, donc, hein, on commence sous Louis XV, là, c'était d'être nommé intendant général du Limousin. Donc, il était à Limoges. Et à Limoges, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la Société d'agriculture du Limousin. La Société d'agriculture du Limousin, c'était une société. Bien sûr, quand il est arrivé à Limousin, il se rend compte que c'était une région très pauvre, que les paysans mouraient de faim, et que donc il a créé une société pour, par exemple, faire des études pour améliorer les cultures de maïs, les pommes, comment améliorer les pommes de terre, le seigle, etc. Mais il s'est aussi rendu compte qu'il fallait aussi changer sans doute des choses. Par exemple, il s'est rendu compte que les routes du Limousin étaient très mal entretenues, parce qu'il était de la responsabilité de chaque riverain des routes de l'époque des routes de les entretenir. Or, les paysans, ils auraient de faire en fait, ils n'entretenaient pas les routes. Donc il s'est dit, c'est là où il est keynésien, c'est plutôt que de. Mais plutôt que les exiger d'entretenir les routes, on va créer des grands travaux du Limousin, si on peut dire, enfin, les grands travaux du Limousin, c'est-à-dire que contre le fait que ces paysans viennent entretenir les routes, ben, je leur donnais à manger le soir. C'était un truc assez énorme qui ne se faisait pas du tout dans l'homme de France à l'époque. Voilà. Et ce Turgot, donc, quand il était donc gouverneur du Limousin, il avait créé des bureaux de correspondance sur l'agriculture de Limoges un peu partout dans le Limousin, dont un à Brive. Et je me suis rendu compte dans mes recherches que ce bureau d'agriculture de Brive était hébergé par le collège des doctrinaires. Donc ça fait tilt dans ma tête, c'est une hypothèse, hein, aucune certitude dans ce que je vais vous dire. Je me suis rendu compte en plus que, en lisant la biographie de mes héros brivistes, que tous leurs parents, donc le père de Cabanis était un grand affilié de ce directeur de la Corrèze, parce que lui avait des terres près de Connacht, de Hama, il faisait beaucoup d'agriculture. Et je me suis rendu compte que tous les parents de mes révolutionnaires ont tous été, non seulement au collège des doctrinaires, mais après, quand j'étais adulte, dans la société d'agriculture du Limousin. Donc, j'ai fouillé encore plus et je me suis rendu compte que cette société d'agriculture est rapidement sortie de son cadre d'activité uniquement agricole et grands travaux, mais est aussi proposé des solutions pour que le royaume aille le mieux. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Ils ont fait, avant la lettre, 20 ou 30 ans avant la Révolution, ils ont proposé des idées que l'on va retrouver après dans les cahiers de doléances, par exemple. C'est-à-dire qu'ils proposaient la diminution de certaines taxes, dont la gabelle, et d'autres, évidemment, les choses à leur présente, la dîme, etc. Donc c'était des gens qui étaient vraiment très avancés, quoi. Alors l'hypothèse que j'ai formulée en me disant, bon ben, Cabanis, Treillard, Brune, les révolutionnaires-là, ont dû être baignés dans cette culture à la fois en allant comme étudiant, comme collégien au collège doctrinaire, mais aussi dans leur famille, quand dans leur famille, parce que je me suis dit que le père Bru, le père Cabanis et le père Triard étaient des lumières de l'époque. Voilà. C'est une hypothèse hein, que je suis le seul à partager. Donc, on ne sera pas contredit. On peut. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. J'ai regardé partout grâce aux moyens informatiques, c'est formidable. J'ai regardé partout grâce à Internet. Dans d'autres villes de France, Brive à l'époque, c'est 7500 habitants. Hein. C'est pas beaucoup quand même. Hein. C'est que à la zone des boulevards, là, un petit peu, jusqu'au pont Cardinal. Bon, enfin, voilà. 7500 habitants. J'ai regardé même des villes plus importantes à l'époque, on ne trouve pas autant de révolutionnaires célèbres. Je parle des trois, les Cabanis, Triard et les Boulevards, qui ont donné, disons, le meilleur de leurs enfants à la révolution française. Voilà, donc moi, l'hypothèse que je formule et que je maintiens devant vous, ça vous l'ai dit, c'est que c'est grâce à l'alliance de Turgot et des doctrines. Voilà, ça c'était pour Turgot. Alors Turgot, vous savez qu'il a eu un mauvais destin politique, puisqu'il était tellement, il avait tellement réussi dans le Limousin que le roi l'a appelé à faire la même chose à Paris. Donc il est passé de l'intendant du Limousin à ministre des Finances, on peut dire. Maintenant. Au bout de 6 mois, le roi lui a premier ministre, il était premier ministre, mais là il s'est heurté au conservatisme exacerbé des parlements de l'époque et des conservateurs. Et très rapidement, le roi Louis XVI, lui, a fait la grande erreur de lui retirer toute fonction. Les historiens sérieux disent que s'il avait laissé Turgot faire la politique qu'il voulait faire, on aurait sans doute fait l'économie de ces 10 ans de révolution. Pour vous donner une ordre d'idée, Turgot, par exemple, ça allait loin. C'est lui, on dit, qu'il a inventé la turgotine. La turgotine, c'est que, par exemple, pour aller avant, sous l'Ancien Régime, pour aller de Paris à Bordeaux, on mettait avec les moyens de transport de l'époque, les diligences, on mettait plus de 8 jours. Lui, il avait inventé un système d'une diligence beaucoup plus légère, qui n'était pas tirée par 8 chevaux ou 6 chevaux, mais par 4 chevaux. Et qui donc mettait la moitié du temps. Voilà, il avait inventé le TGV de l'époque. Oui. Ça, c'est l'œuvre de Turgot. Bon, ça, c'est une manifestation, j'allais dire, c'est une image, mais voilà, il était très progressif dans tous les domaines. Malheureusement, les conservateurs ont le sapeau. Voilà, alors où est-ce que j'en étais ? Donc, maintenant, je vais rentrer dans la présentation de chacun des personnages en détail. Il faudrait un gardien du temps. Qu'est-ce qui garde le temps? Parce que quand je suis parti, ça peut être un débat.
Ça fait déjà
4 heures.
Sur le mur,
Je vais vous présenter les personnages en fonction de leur. Si vous voulez bien, c'est l'ordre que j'ai suivi dans mon travail, dans date d'entrée dans la Révolution française. C'est-à-dire la première date à laquelle ils rentrent dans la grande histoire de France. On prend Donc, pour faire ça, je vais être obligé, en 5 minutes, de faire un petit débriefing sur la Révolution française, du début à la fin. Enfin, sur les 10 ans les plus durs de la Révolution française. Les historiens ne sont pas d'accord pour dire quelle est la date. Tout le monde s'accorde à dire que la Révolution française a commencé par la Convention des États généraux. C'est en 1998. L'État généraux, tout le monde connaît. Mais la date de fin de la Révolution française, ça, c'est la convention de chacun. Il y a un qui dit ça s'arrête à la mort de Robespierre. Il y a d'autres qui disent que ça s'arrête à la prise de pouvoir de Napoléon, de Bonaparte. C'est les 10 ans que j'ai retenu moi, avec un petit débordement pour le sang de brûlé, qu'on va voir. Il y a d'autres qui disent, non, Napoléon, Bonaparte a continué la Révolution française, donc la fin de la Révolution française, c'est 1815, c'est Waterloo. Il y a d'autres qui disent, dont François Furet, par exemple, et Wano Ouzouf, qui sont les deux grands historiens de la période actuelle, disent que la Révolution française, en fait, les idées de la Révolution française ne sont mises en application progressivement qu'au XIXe siècle. Donc la fin de la Révolution française, c'est 1870, 1871, ouais, tout ça, avec la Troisième République, en fait. Voilà. Et puis il y en a qui disent que c'est pas encore fini, parce que la Révolution n'est pas finie. Donc les idées de la Révolution française ne sont pas encore finies. Là, j'ai résumé à peu près tout ce qu'on peut voir. Donc moi, je me suis compte tenu, 1789. 1799, c'est-à-dire sur 10 ans. Alors, il faut imaginer quand même ce que c'est que 10 ans de révolution. Là, on en est à 4 mois de gilets jaunes. C'est 10 ans ininterrompus hein, de troubles dans le pays. On estime que les historiens disent qu'il y a eu sur les 10 ans, il y a eu 13 journées révolutionnaires, 13 grandes journées révolutionnaires. Les grandes journées révolutionnaires, c'est quand le peuple de Paris sort de, chacun sort de chez soi, prend la fourche, le pique et puis fait la révolution. Ça commence par le 14 juillet, mais ça va beaucoup plus loin. Donc c'est là où on fait sur les tocsins dans les quartiers de Paris, et là on va faire la révolution populaire. Ouais. Alors, moi je découpe la révolution en quatre grands, grandes parties. La première partie, et vous allez voir, c'est très simple parce que c'est par c'est des cartons, si vous voulez. La première partie, en fait, les révolutionnaires cherchent à établir une monarchie constitutionnelle. Ça, c'est la partie 1789-1792. Donc, ça, c'est les états généraux. C'est le 14 juillet. Et ça, ça se termine. Le début de la fin de cette partie-là, c'est la fuite à Varennes, dont je reparlerai, parce que c'est là où le roi, alors que tout le monde était globalement d'accord pour qu'il se maintienne au pouvoir, et qu'on a une monarchie type britannique, en fait. Et donc, on pourrait très bien encore avoir la France, si le roi n'était pas enfui à Varennes, là, on pourrait très bien avoir un roi de France. Avec des pouvoirs très illimités, hein. Un parlement a les pouvoirs, mais en roi de France. Là, ça n'a pas été le cas. La deuxième partie, c'est donc la partie 1992-1994, là, qui commence donc l'ascension de la République, c'est-à-dire la prise des Tuileries le 10 août 1992, les massacres de septembre, enfin, je reviendrai si j'ai le temps, etc. Et qui se termine en 1994 par la chute de Robespierre. Donc, qui se termine un peu. 92, c'est l'euphorie, l'association de la République, les bagarres, etc., les batailles extérieures, mais on passe par l'année 93, qui est l'année la plus terrible de la Révolution française, puisque là, rien ne va. Les armées ennemies ont envahi la France, les guerres de l'Ouest commencent, les guerres de Vendée commencent, les Girondins sont mis en accusation et les virés de la Convention, avant d'être exécutés au mois de septembre. Les prêtres réfractaires sont déportés en Guyane, je vais revenir. C'est l'année la plus terrible, c'est l'instauration de la fièvre. Voilà. Troisième partie. Alors, la première partie, je vous parlais de Trahir et de Brune. La deuxième partie, je vous parlais de Latreille et d'Espagnac. La troisième partie, c'est donc qui suit la chute de Robespierre, on installe en France un système. On n'aura jamais d'historien, parce que pourtant, ça dure 5 ans. La seconde partie dont je vais vous parler dure autant de temps que la première partie. On a tous en tête 14 juillet, l'élection de Robespierre, procès de Danton, etc. Mais tout ce qui s'est passé dans les 5 ans qui suivent, qu'on appelle l'appel du directoire, on n'en parle jamais en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de personnage illustre en France, si ce n'est quelques corrompus qui étaient au pouvoir, le plus connu étant Barras, qu'on a appelé beaucoup de corruption. C'est un corrompu, on peut déjà appeler d'être corrompu. Et puis, mais c'est la période dont on se rappelle tous, en revanche, c'est la seconde période dont on se rappelle tous, des succès militaires en Italie. On se rappelle de Arcole, Rivoli, la campagne d'Égypte, enfin, c'est les grands succès de Bonaparte et de Brune. Et de Brune. C'est la période où les généraux révolutionnaires, donc, ont vu un abri de lâcher par le directoire. Comme les étrangers nous ont attaqués, les monarchies nous ont attaqués, ben nous, on les attaque maintenant et on envahit. Dans l'ordre, l'Italie, la Suisse, une partie de l'Allemagne, la Belgique et la Hollande. Et là, c'est la grande époque des généraux républicains français, dont Bonaparte, dont Joubert, dont Masséna et dont Brune. Voilà. Et c'est une période aussi où les royalistes donc redressent la tête et veulent revenir au pouvoir. Donc, ça termine. La dernière partie de la Révolution, c'est. On en est à 8 ans de révolution, on a ras-le-bol en France, on cherche un système, une sortie de la révolution par le haut, en conservant les acquis, mais en remettant de l'ordre dans le pays. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, sur pareil, on cherche un homme fort, mais qui est adhéré aux idées de la République, qui soit prêt à mettre en action les idées de la République, liberté, égalité, fraternité, et on tombe. Non pas sur Bonaparte pour démarrer, mais on tombe sur Joubert. Le général Joubert fait le consensus des milieux intellectuels de Paris, disant donc c'est un Joubert qui pourra prendre le pouvoir. Manque de chance, c'était l'époque où les généraux ils étaient à la tête des troupes. C'est pas comme en 14-18, ils allaient sabre au clair, comme on a vu Arcole, etc. Et donc manque de chance, pour lui, Joubert se fait tuer à la bataille de Lodi. Donc il ne reste plus beaucoup de choix. On pense à Brune. Certains milieux pensent à Brune. C'est dommage. Bon, c'est là, sont ceux. Certains milieux. C'est-à-dire que Barras dit en ses mémoires qu'il pensait lui à Brune. Mais finalement, le consensus se fait sur le nom de Bonaparte. Voilà. Donc, on confie à Bonaparte le destin de la France en 1799 par le 18 Brumaire. Dans la logique, j'ai tout le monde me suit, tout le monde était à l'école. Ce que très peu de gens savent, c'est que la proclamation aux Français du 18 Brumaire, du 19 Brumaire exactement, a été rédigée par Cavanis. Je ne savais pas avant, j'ai découvert, parce que Cavanis était passé de médecin à philosophe, et de philosophe à homme politique, puisqu'il était élu au comité des 500, et il faisait partie du groupe de réflexion qui cherchait à sortir de cette période un peu anarchique de 10 ans. Parce que on a toujours une image de la Révolution française, c'est formidable, etc. Mais non, en fait, le peuple crevait de faim à Paris pendant les 10 ans, il y avait des révoltes un peu partout dans Paris. Les gens qui habitaient en ville n'avaient rien à manger. Quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donnait tout ça? Maintenant, je vais vous montrer, je ne vais pas vous faire circuler, mais pour travailler, comme je viens de l'informatique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un travail. J'ai pris un tableur Excel et j'ai mis ici les grandes dates de la Révolution. Et ici, j'ai mis ce que faisait chacun de mes personnages à un moment de ces grandes dates de la Révolution. Voilà. Donc, je vais peut-être. Alors, j'ai parlé de Turgot, là. Donc, je vais passer à Treillard. Treillard, c'est un personnage considérable dont on ne parle pas assez. Alors, ça c'est c'est le Treillard au Panthéon, ça. Personnage considérable. Alors, si vous avez l'envie, il faut à tout prix quelqu'un se mette à écrire la biographie de Treillard. Il n'y a aucune biographie sur Treillard. C'est quand même le bridiste le plus important de la Révolution française. Quand je vais vous dire tout de suite la Révolution française, je ne comprends pas qu'il n'y ait rien sur Treillard. Alors, on est encore passé en revenant là. La première chose, s'il y a des gens de la mairie ici, ou dans la tournage de la mairie, il faudrait au moins nettoyer sa plaque. Il y a une plaque sur sa maison natale, c'est juste à côté. Mais la plaque est de 1930, par là, j'ai vu. Et elle est un peu.
Sale.
Un peu sale, donc il faudrait passer un petit peu avec une échelle et puis la nettoyer un peu, parce que vraiment, c'est un. C'est un. Voilà, c'est bien d'avoir que Brice besoin de dire un peu de. Un peu d'élan à Treillard. Donc, Treillard, il rentre dans l'histoire de France en. Donc, c'est un. Comment dire, il est au tiers état. Il est élu par Brive au tiers état. Et c'est le rapporteur. C'est le rapporteur. Il a dû garder un mauvais souvenir du passage doctrinaire. Lui, c'est le rapporteur de la commission qui va aboutir sur la constitution civile du clergé. C'est-à-dire c'est le rapporteur de la loi nationalisant à la fois les biens du clergé et le clergé. Ça s'appelle la constitution civile du clergé. C'est donc une loi très importante en France, puisque c'est la première loi qui va déboucher, je crois, en 1905, sur la loi sur la laïcité. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de Treillard, qui était le président de la commission ecclésiastique. Ça fait la commission ecclésiastique de l'Assemblée constituante. Voilà. Et voilà. Après, cette loi a tellement été votée par ses collègues qu'il s'est retrouvé après président de l'Assemblée constituante. Donc, c'est pour là que je vous dis que Treillard, c'est quand même quelqu'un de très, très, très important. Président de l'Assemblée constituante, alors c'était l'époque où il se méfiait un peu, donc on restait que 3 mois président de la constituante. Donc il a été pendant 3 mois président de l'Assemblée constituante, ce qui est déjà quelque chose de considérable. Avant la Révolution, il était juriste au prince de Condé. Après, donc, alors maintenant vous avez vos repères dans ce que je vous ai dit sur la Révolution. Treillard, qu'est-ce qui va se passer? Les gens de la Constituante, par excès de démocratie, par choix, disent tous les élus de la Constituante, donc les élus qui étaient les membres du 15 État. Qui se sont transformés, rappelez-vous, sous l'impulsion de Mirabeau, sortant du jeu de paume, etc., en assemblée constituante, ils votent à la majorité qu'aucun député de l'assemblée constituante ne pourra siéger dans l'assemblée qui suivra, qu'on appelle la législative. Donc pas de tribunal à la législative. C'était comme ça. C'était, il fallait pas que les constituants fassent une constitution pour eux, en fait. Donc pour les éviter, donc, pour eux, on leur dit, parce que vous voulez, vous ne siégerez pas dans l'Assemblée qui suivra. Donc c'était une mesure assez intéressante, je trouve. Donc, mais dès qu'il a la possibilité de se faire élire, c'est donc ce qu'on appelle la convention, la troisième assemblée, donc assemblée constituante, assemblée législative, convention, qui est le nom de l'Assemblée nationale qui va suivre la chute de la monarchie donc en août 92 et la création de la République en septembre 92, Treillard va se retrouver donc bien sûr, bien sûr, vous allez voir qu'il est président de toute façon, il va se retrouver président de la convention. Ça va être le président de la convention qui va commencer le procès de Louis XVI. Voilà. Donc il est président de la convention en décembre 92. Le procès de l'exécution a été exécuté le 21 janvier 1793. Voilà. Donc c'est lui qui ouvre le procès de Louis XVI. Après, bon, président de la Convention, après, vous savez qu'on crée le côté c'est le public de la terreur qui va commencer, les armées ennemies envahissent la France, on crée un côté de celui public, c'est-à-dire qu'on quitte un peu la démocratie, hein, on arrive vers un régime de pré-terreur, côté celui public. Bien sûr, on va retrouver Treillard dans le côté de celui public. Voilà. Mais Treillard, comment dire, Treillard, c'est pas un... Comme c'est un juriste de formation, grand juriste de formation, je vais le dire, mais avant la révolution, il était conseiller juridique du prince de Condé. Le prince de Condé, c'était un prince très, très, très important dans la monarchie précédente, dans le système. Donc, Treillard n'est pas un montagnard, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la plaine. Vous savez, dans la convention, il y avait les Girondins, qui étaient la droite, on peut dire. La plaine, qui était le centre. La plaine. La plaine, le marais.
Oui, le marécage.
La plaine, c'est vrai que je dis. Et il y avait aussi les gens au fond de gauche durs qui étaient les montagnards. Treillard est un jacobin, parce que Claude est jacobin, mais ce n'est pas un montagnard, donc il est assez triste, si on peut dire. Donc, quand ça se durcit, il est exclu du côté de celui public par les montagnards. Donc, il a été exclu du côté public, il a été exclu d'après pour modérantisme. Voilà. Et là, il dit c'est vraiment chaud, la tirée va commencer, et là, il va se planquer. Hein, parce que tous ceux qui ont survécu un peu, qui n'étaient pas forcément d'accord avec la dictature qui est en train de se mettre en place avec Robespierre, tout simplement, ils rentraient dans leur province, les conventionnels, où ils se cachaient dans Paris, chez les amis. Donc lui, on ne sait pas, il est devenu pendant quelques mois. Mais dès la chute de Robespierre, hop, bien sûr, il ressurgit, on va le rechercher et on le remet au côté de celui qui le lit. Et alors, je n'ai pas le temps de vous le citer, mais vous le trouverez. Il se retrouve donc, bien sûr, président d'une nouvelle assemblée nationale qui s'appelle le Conseil des 500. Chaque fois qu'un président s'est trouvé, c'est Treillard. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est considérable dans la... C'est le seul. Hein. Il y a des gens qui ont traversé la Révolution française de 88, disons, à 99, même plus lui. Il n'y a pas bien beaucoup. Il y a l'abbé, Sieyès. Et puis il y a lui, il y a peut-être un autre que je dis, mais ils ne sont pas nombreux à avoir comme ça une influence sur les 10 ans de la Révolution. Lui, il se retrouve président du Conseil des 500, et en tant que président, le 21 janvier 1796, donc pour les 3 ans de la mort du roi, on peut montrer que c'est un acharné, il fait un discours. 96 96. Oui, 3 ans après la mort du roi. Il faut suivre. Je n'ai pas la même approche.
Non,
c'est mon épouse. Et donc, trois ans après, il est président et il fait un discours qui est rentré dans l'histoire de France, qui s'appelle, le discours s'appelle Haine à la royauté. C'est une époque où les royalistes, donc 2 ans après la chute de Robespierre, les royalistes à Paris redressent la tête. C'est l'époque des Muscadins, j'en reparlerai après la nouvelle. Et donc, lui, en tant que président, quand il prend sa présidence, il fait un discours qui s'appelle Haine à la royauté, où il dit je vais à la royauté. Ce discours plaît tellement qu'on décide que dès le lendemain, enfin on vote après, hein, quelques mois après, tous les personnes françaises qui vont rester fonctionnaires signeront un serment de haine à la royauté. Et que s'ils ne signent pas ce serment, ils ne pourront plus rester fonctionnaires. Voilà. Donc ça, c'est notre rôle de triage. Oui, là, il n'était pas montagnard, mais c'était quand même un sacré révolutionnaire engagé. Voilà. Donc ça, c'est très bien, il en est là. Après, il a un peu fini ses... Après, donc c'est le directoire, après il devient donc membre du directoire. Le directoire, c'est le Premier ministre de la France. Enfin, c'est même le président de la France. Sauf que comme ils se méfiaient du retour de la dictature, ils disaient qu'il y aura 5 directeurs en France qui seront entre ces 500 révolutionnaires des anciens. Et donc, parmi les 5, on en tirera au sort tous les hommes qui devra laisser sa place à un autre qui sera choisi sur une liste qui sera avalisée par les députés. Voilà. Treillard, bien sûr, de façon inévitable, se retrouve au directoire. Donc il est au directoire de la France, donc on peut dire qu'il est président de la France, mais président collégien de la France. Et il se retrouve à un moment, bien sûr, président du directoire, parce qu'il y a une présidence, on pense à Treillard, parce que comme c'est un grand juriste, il doit avoir une présidence assez équilibrée, en fait. C'est l'hypothèse que je me fais moi, parce que pour être président d'autant d'institutions révolutionnaires, il faut quand même avoir sans doute pouvoir concilier pas mal de contraires hein, pour rester en plus en vie à l'époque. Donc il se retrouve président du directoire, mais peu de temps, parce que les royalistes même. Qui revient très très fort en France, il faut une cabale contre lui, il trouve un point de règlement disant qu'on ne peut pas être premier directoire si on a été moins de 2 ans au directoire. Enfin bon, bref, il est obligé de céder sa place. Voilà. Donc j'ai fini pour Treillard et son apport dans la Révolution. Après, bon, bien sûr, hein, c'est pas fini, après il est ambassadeur à Naples, il est président du tribunal d'appel de la Seine, après la Révolution, là on passe sous Napoléon. Hein. Après, il est conseiller d'État, il est nommé grand officier de la Légion d'honneur. Après, Napoléon, alors, en 1808, le nomme comte d'Empire. En 1809, ministre d'État. Voilà. Et tout ça pour terminer par un décès en 1810 et être immédiatement panthéonisé comme Simone Veil. Directement à l'époque avec Napoléon, on allait directement de son lit mortuaire au Panthéon qu'on était un grand bien. Ça c'est pour Treillard. Pour moi, c'est le. Encore une fois, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus d'ouvrages sur ce Treillard. Quand vous regardez une discussion Wikipédia, il y a une page ou deux. Et il faut vraiment consacrer des recherches des gens pour essayer de trouver. Moi je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé aucun ouvrage sur Treillard, même évoquant Treillard plus que par quelques phrases. Il a fallu que j'aille dans le dictionnaire des parlementaires français que j'ai trouvé. À l'Unité nationale de France, où là, il y a une page sur Treillard, je vous l'ai dit là.
Il est quand même cité parmi les rédacteurs du Code civil.
Oui, alors, rédacteur du Code civil.
Le Code de procédure civile.
Oui, connu.
Il a participé au Code civil avec les 4 grands, Tronchet, Bigot de Préabineux, Portalis et Malville qui est de Dorme.
D'accord.
Et il a parlé. Par contre, c'est lui qui a été nommé pour rédiger le code de procédure civile. Voilà, voilà ce qu'on retient au point de vue juridique concernant Treillard.
Voilà, voilà. Ouais, j'ai oublié de dire qu'il participe sous l'Empire, c'est ce qu'il veut, il participe à toutes les rédactions de code, en fait, d'une façon ou d'une autre. C'est la juriste qui parle, là. Ah, ça c'est joli, bon, je voulais vous montrer ça, c'était bon, c'est pas très important. Ça. Ça ne marche plus, là, c'est pas grave. Ah, ça, c'est Brune Jeune. J'ai fait exprès de prendre Brune Jeune parce que moi, j'ai été élevé avec ma statue de Brune, tout ça. On parle toujours du maréchal Brune. Quand on en parle à Paris, à des Parisiens, le maréchal Brune, c'est le boulevard où il y a le centre de ski postal, mais c'est pas plus que ça. Il y a toujours le maréchal Brune, on voit un monsieur dans la forêt, enfin. Dans la maturité, etc., etc. Mais l'apport le plus important de Brune a été la Révolution française. La Révolution, pas au Bonaparte, pas à l'époque de Napoléon. C'est l'être qui a été mis au placard par Napoléon en 1807, je crois. 6, 7. Et jusqu'au 100 jours, en fait. Hein. Mais c'était surtout un général révolutionnaire très engagé. Son entrée dans l'histoire de France a lieu le 17 juillet, on en parle pour la première fois. Le a eu lieu le 17 juillet 1791, où c'est une journée qui a été retenue par les gens de France comme étant appelée la fusillade du Champ de Mars, c'est-à-dire que le roi a voulu fuir la France, c'est la fuite à Varennes, dans des conditions invraisemblables, d'ailleurs, on va le détail, au lieu de fuir dans une turgotine donc, pour aller vite à la frontière. Les gens qui l'ont fait en fuir ont pris la diligence la plus grande de Paris, un truc énorme avec 8 chevaux devant qui n'avançaient pas, ils sont en vrai, je vous raconte.
Ils sont spéculés.
Voilà, ils voulaient partir avec toute sa famille, etc. Donc il fallait un engin énorme qui n'avançait pas. Il y avait des troupes, vous voyez, qui sont venues l'attendre en Champagne, là, pour l'exfiltrer jusqu'à la frontière. Son truc allait tellement lentement, il est arrivé avec des heures. Enfin, les troupes l'ont pas attendu, ils se sont dit, bon, ben voilà, la fuite a échoué, il a dû être retenu à Paris, il n'y avait pas de l'internet, du téléphone. Ils sont rentrés chez eux, ils le savaient comment malheureux, avec cette énorme diligence, on appelle ça, en Champagne, là, par là, dans l'Est en tout cas, qui n'avançaient pas. Les paysans, quand ça avançait très lentement, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cet engin qui arrive et tout ça. Bon, il a attiré tout ce qu'il ne faut pas faire pour mieux s'enfuir. Si bien que quand il arrive à Varennes, donc, il y a Drouet, le Drouet que tout le monde connaît, il n'est pas le premier venu quand même, il se dit, attends, il ne va pas. Ils se disent, les sans-culottes sont là, enfin, la légère sont là, ils disent, que c'est que ce diligence, tout ça, et c'est là où il y a fait les épisodes de la pièce, vous savez, où c'est Drouet, là, la pièce avec l'utilité de Louis XVI, il compare le gars qui est dans la diligence avec la pièce, il dit, oh, mais c'est lui. Voilà. Donc, on le ramène à Paris, ça, c'est au mois de juillet 91, au mois de juin 91, et. Alors là, la France se divise en. Enfin, les révolutionnaires, je parle quand je parle de la France, les révolutionnaires se divisent en deux, à Paris, en deux grands tendances. Vous voulez, ceux qui veulent le démettre de suite et instaurer la République de suite. Ça, c'est un mouvement qui est mené par le Club des Cordeliers. Le Club des Cordeliers, dont Brune est un des fondateurs avec Danton et Desmoulins. Ce sont des gens qui veulent la République de suite, alors que la majorité de l'Assemblée législative de l'époque. Est prêt, si on peut dire, qui est une majorité de révolutionnaires de droite, si on peut dire, est prêt à donner une nouvelle chance au roi. Et donc, comme rappelez-vous ce que je vous ai dit, ils veulent faire une monarchie constitutionnelle, ils laissent une dernière chance au roi en disant bon, ben, on te laisse au pouvoir, mais on prend le pouvoir parlementaire. Voilà. Donc, c'est ça. Mais les candidats qui sont les acharnés de la République convoquent le peuple de Paris le 17 juillet sur le Champ de Mars à Paris pour. Signer une pétition demandant l'instauration immédiate de la République. Donc ça, c'est fait donc par les plus républicains des révolutionnaires, si on peut dire, dont Brune fait partie. Alors j'en parle toujours de ça, parce que ça montre bien le caractère déterminé de ce garçon, quoi. C'est pas un tiède. Lui, il fait le service d'ordre qui est au pied de l'estrade sur laquelle on va signer la pétition. Cette pétition, cette signature, cette journée est tragique. C'est pour ça qu'on appelle la fusillade, parce que la majorité de l'Assemblée législative, donc le président Lamette et le maire de Paris qui s'appelle Bailly, appellent la garde nationale dirigée par Lafayette pour mettre bon ordre à la signature de cette pétition. Donc, la garde nationale arrive, et pour la première fois, donc le drame français, la garde nationale tire sur le peuple de Paris. La fusillade, ce qui fait, je n'ai pas le temps de revenir sur le détail, parce que ça pourrait prendre une heure, là j'adore raconter cette histoire. Ça fait entre 40 et 400 morts, suivant. On ne sait pas très bien, il n'y a pas de statistiques fiables à l'époque, hein, il n'y avait pas de BFMTV, tout ça n'existait pas, donc entre 40 et 400 morts, mais ça fait des morts. Voilà.
Il est 3h10.
J'en compte 3 quarts
d'heure. Oui, ça fait des morts.
Non, 3 quarts d'heure. C'est dans. Pour l'anecdote, donc. L'état d'urgence se manifeste par le drapeau rouge. Donc la garde nationale a le drapeau rouge. Voilà. Et on dit que c'est depuis cette fusillade-là que le drapeau rouge s'est imposé comme étant le drapeau des révolutionnaires du monde entier. Enfin, le drapeau rouge qui est repris après par la révolution bolchevique. Voilà, c'est l'origine du drapeau rouge. Alors, pour montrer l'état de passion qu'il y avait à cette époque-là, donc. Le maire de Paris, là, Bailly, après en 93, lui qui est plutôt à droite, donc, va être guillotiné au cours de la terreur. Donc cette journée a tellement choqué le peuple de Paris qu'on ne va pas le guillotiner place de la Révolution, qui est devenue la Concorde, hein, mais on veut le guillotiner là où il a fait tirer sur le peuple de Paris. Donc on amène la guillotine au Champ de Mars. On monte la guillotine au Champ de Mars. Là, on la met sur sa charrette, la guillotiner. Et là, Et le Seigneur vient et dit non, non, on ne veut pas que son sang souille sous des martyrs. Donc il reste dans sa charrette, pour montrer la dureté de l'époque, il reste dans sa charrette